RTL L'équipe, Carrément Moteur, Christian Pasquet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue Carrément Moteur, une heure d'information consacrée à l'actualité des sports mécaniques que nous allons décortiquer, analyser, et Dieu sait s'il s'est passé des choses le week-end dernier, il s'en passera ce week-end. Nous allons bien évidemment revenir sur le Grand Prix de Monaco. Il s'en est passé des choses, bingo et gros lot pour Vettel. On imaginait un final encore plus ahurissant et puis eh bien les circonstances de course ont fait qu'on reste un peu sur notre faim. Pour ce qui est du rallye, alors là, le final a été tout aussi étourdissant. Quand je dis étourdissant, c'est un peu la tête à l'envers pour Ogier, évidemment. Et là aussi, un homme qui s'en sort carrément bien parce qu'il a été audacieux, c'est Sébastien Loeb, vainqueur en Argentine. Nous allons évoquer bien évidemment la moto avec ce week-end le Grand Prix de Catalogne. Et là aussi, il s'en passe des choses sur les circuits pour deux roues. Enfin, nous ferons bien évidemment ensemble le tour de l'actualité du week-end qui se profile avec pas mal de choses. WTCC, F3 Euro Series, DTM, NASCAR, FIA GT. Bref, que du bon, que du bonheur, c'est Carrément Moteur. Avec à ma gauche, Monsieur Bruno Scagliotti. Salut Bruno.
Bonjour.
À ma droite, Gilles Delaposta, Eurosport. Salut Gilles.
Bonjour Christian.
Et
moi, t'as que l'autre. Bonjour.
De l'autre côté de la Loire, François Doré. Salut François.
Bonjour Christian, bonjour Bruno, bonjour Gilles. Voilà, c'est fait.
Salut
voilà.
François.
François.
Salut
Doré, François. Autoplus Autojournal, une émission pilotée par François Lavigne. Il s'est passé plein de choses, on y revient de suite et bien évidemment, il y a aussi l'actu de la semaine.
RTL L'équipe, l'actu de la semaine.
Oui messieurs, l'actu de la semaine, j'ai un peu anticipé, je souhaitais que l'on évoque, parce qu'on y est presque, et du côté du Mans, ils y sont, ils travaillent déjà, c'est les 24 heures du Mans, messieurs, la plus grande et la plus folle course d'endurance du monde, c'est au Mans, ce sera toute la semaine prochaine avec les vérifications techniques, un tas de choses. Gilles, un mot sur le Mans, c'est incontournable quand on est passionné, hein ?
Ah bah, ça commence par là. Si on est passionné de sport automobile, il faut commencer par aller aux 24 heures du Mans. Non mais sincèrement, bon, moi j'ai pas de petit garçon, mais je pense que si j'avais un petit bonhomme qui se passionnait pour ça, je commencerais par ça, parce que déjà la course est belle et l'environnement est assez familial, tout ça, ce qui est pas forcément le cas de toutes les disciplines sur 4 roues et sur 2 roues aussi non plus.
Mon cher François, vous vous êtes déjà rapproché du Mans.
Oui.
Et
oui.
Vous y serez bien évidemment. En deux, trois mots, François, c'est quoi le Mans quand on est passionné ?
C'est la course, comme vient de le dire Gilles. C'est tout à fait ça. C'est la course qu'il faut voir au moins une fois dans son existence. C'est une course aussi que l'on voit sur le terrain, à la différence des autres que l'on regarde à la télé plutôt. C'est, pour comparer simplement, la Formule 1, c'est vraiment un show télévisuel. Que l'on peut aussi apprécier sur le terrain, mais c'est plus compliqué en termes d'éloignement.
Ça demande un peu plus de moyens.
De moyens, donc voilà. Et alors que Le Mans, c'est quand même une proximité pour nous en France, et c'est aussi surtout la course la plus magique qui soit, puisque 24 heures, c'est aller au bout des forces mécaniques et humaines, et c'est là que se situe l'enjeu et le plaisir et la folie du Mans.
Bruno, justement, François parle de l'aspect humain. Le Mans, c'est aussi des histoires complètement folles.
Et puis c'est surtout une partie du patrimoine, parce que quand on voit les courses d'endurance à l'étranger, ils font tous systématiquement référence au Mans. C'est-à-dire que tout le monde de l'endurance sur la planète se positionne autour du Mans. C'est la référence.
Bah, aux États-Unis, il y a un championnat d'endurance.
Oui.
Ils l'ont baptisé le American Le Mans Series. Oui. Ils se sont basés sur le règlement technique.
Alors qu'ils n'ont jamais vu un poudriette de leur vie.
C'est pas idiot.
Bon, en tout cas, les garçons, ça commence dimanche, les 24 heures du Mans, avec les vérifs techniques dès 14h30 jusqu'à 19h. Pour ceux qui connaissent un peu, bien évidemment, direction Place des Jacobins. Lundi, on fera pareil. Mercredi, essai libre de 16h à 20h. Qualification 22h minuit. Jeudi, qualification à nouveau, 19h à 21h. Puis une petite pause et on recommence de 22h à minuit. Ça, c'est pour les qualifs. Vendredi, évidemment, pour le grand public, c'est la balade dans les stands, dans le paddock. Et puis de 18h à 20h, il y aura la parade des pilotes dans la ville. Alors comme on le disait, si vous y êtes en famille, avec vos enfants, avec des jeunes passionnés, jeunes ou moins jeunes du reste, eh bien ne manquez pas la parade des pilotes. Enfin, samedi matin, premier tour de roue très très chaud bouillant, on va dire, avec le warm-up de 9h à 9h45. 14h22, on commence à trembler, c'est la procédure de départ qui est lancée. Et puis, 15h, c'est le départ officiel pour 24 heures de course. Avec, messieurs, cette année, eh bien évidemment, un combat que l'on espère aussi intense que d'habitude. Peut-être un peu plus long que celui de l'an passé, où Peugeot avait décliné au fur et à mesure que les heures s'égrenaient, avec des pépins, on s'en rappelle, sur les 908. François, Gilles, Bruno, cette année, vrai baston, et un peu d'incertitude. On ne sait pas bien ce qui peut se passer, Gilles. Hein.
Bah là, c'est assez perturbant, parce que on avait le sentiment que la R18 était vraiment une machine de guerre, et puis à Spa, qui est donc la dernière épreuve où les deux voitures se sont côtoyées, là on a vu que la 908 avait réellement un ascendant en termes de performance. Alors est-ce qu'on a caché son jeu du côté de chez Audi, puisqu'apparemment les configurations techniques aérodynamiques n'étaient pas exactement adaptées au circuit de Spa. Je crois que François pourrait mieux nous en parler.
Ça, alors là ça c'est le discours traditionnel, ça.
Grincheux qui réplique.
Ah non, mais c'est un discours de perdant, ça. Quand on a rencontré à Spa les dirigeants des deux formations, de Audi et de Peugeot, les deux nous ont embarqués dans ce discours-là. De toute façon, nous sommes là pour préparer Le Mans, la victoire n'est pas l'objectif,
François, et blabla. François,
et tout ça, c'est pipeau.
Tu as infiniment plus de métiers que moi. T'écoutes encore les patrons d'équipe quand t'arrives comme ça à quelques semaines des 24 heures du Mans? C'est pas avec les patrons d'équipe qu'il faut parler. C'est avec les mecs, tu le sais. Ben, en plus, tu le sais mieux que moi, 100 fois mieux que moi. C'est avec les mécanos qu'il faut aller voir, avec les pilotes, à l'abri des regards. Et alors je te dis pas que les pilotes d'Audi étaient rassurés, mais je crois qu'ils sont, enfin, en tout cas, l'écart est pas aussi grand qu'on veut le faire croire. T'es d'accord avec moi ou pas?
Oui, non, l'écart qu'on avait pu constater lors de la journée test au Mans, quelques semaines auparavant, cet écart-là semblait quand même assez brutal en défaveur de Peugeot. Ce qu'on a constaté à Spa, c'est qu'en fait, l'écart de performance entre la nouvelle Audi R18 et la nouvelle 908 n'était pas aussi évident qu'on pouvait le penser au premier abord. Alors après, entre la journée test, puis les 1000 km de Spa qui se déroulaient dans des conditions très différentes. Je pense qu'on arrive finalement pour la course des 24 heures du Mans, on arrivera à une sorte d'égalité, je pense, au départ. Après, restera à définir la fiabilité des voitures.
Alors, il y a un autre élément, peut-être qu'on peut aborder aussi, c'est qu'il y a une autre dimension aussi. Il y a le duel, effectivement, entre Peugeot et Audi, avec des voitures qui sont en configuration 2011. Et puis, il y a aussi des voitures qui vont être en configuration 2010, adaptées au règlement 2011. Alors, on parle pas en plus des essences et voilà.
Oui,
mais il y a la 908 de l'équipe Oreca, qui, elle, donc, est une millésime 2010, mais adaptée au règlement 2011.
Qui a gagné à Sebring.
Et qui
face
peut.
Face au Peugeot 2011.
Ouais, et qui peut venir semer le trouble. Très sincèrement, Si cette Peugeot gagne, c'est pas une surprise, mais ça peut, enfin, ça en sera une, mais sans l'aide vraiment.
Oui.
Enfin, je sais pas comment le dire.
Oui, mais non. Oui, mais alors là, honnêtement, non, je pense pas. On a vu, enfin là, s'il y a une vérité qui a pu ressortir des 1000 km de Spa, c'est que la 908 Oreca, malgré tout le talent de ses pilotes et l'excellente préparation de l'écurie Oreca, en termes de performance, elle était larguée par les R18 et par les nouvelles 908. Autant la première course de la saison à Sebring a fait apparaître quelques faiblesses de la 908 qui n'en était de la nouvelle 908 qui n'en était qu'à son début en développement, autant à Spa la nouvelle 908 a profité de tout son développement et de tous les moyens mis en œuvre par Peugeot, et Dieu sait qu'ils sont costauds, pour faire vraiment la différence de performance. Alors même si aujourd'hui la CO a décidé de redonner justement à la 908 de 2010 un petit plus de performance en termes de règlement, Je pense que ça ne sera pas suffisant pour qu'elle se mêle, vraiment la bataille en tête avec les nouvelles voitures 2011.
Juste en 5 secondes, on se rappelle que l'an dernier, François, la victoire, c'est pas joué à la performance, ça c'est joué à la fiabilité. Donc c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut voir la fiabilité des voitures de tête.
En tout cas, on aura un premier aperçu des...
Moi, je regrette l'époque où ils partaient à l'ancienne, c'était quand même plus rigolo.
Ah bah oui, quand ils avaient un accident dans le premier tour et qu'ils étaient éjectés de la voiture, c'était rigolo. Et ça fait partie des images mythiques. Jackie X qui traverse la piste et qui va en marchant s'installer, s'attacher, alors que tous les pilotes partaient en courant, ils faisaient les premiers tours sans être attachés, ou alors en s'attachant, en roulant à 300 dans les lignes droites. Voilà, ça fait partie des images mythiques et ça fait partie du patrimoine. L'accident de Mercedes, ça fait aussi partie de l'histoire tragique.
Hélas, oui. Ils seront attachés, sanglés, casqués, gantés.
Intérêt.
Samedi prochain, 15h, on suivra cela de près, évidemment. On vous en rendra compte autant que possible. Et rendez-vous dans une semaine pour évoquer les 24 heures du Mans.
RTL L'équipe, la Formule 1.
La Formule 1, messieurs, avec... alors, j'ai envie de dire...
Ça n'a pas commencé, ça m'énerve déjà.
Que Vettel...
Il est noir aujourd'hui, Bruno.
Vettel a raflé la mise, messieurs, parce que il avait repris le commandement de cette course au 33e tour. Il fallait aller jusqu'au 78e. Ça commençait à devenir compliqué pour le champion du monde en titre avec sa Red Bull et ses pneus plutôt fatigués. 72e tour, accident, on remet les voitures sur la grille, on interrompt la course, on bricole sur les voitures, il reste 7 tours et ça change tout, mon cher Bruno.
Il a raflé la mise, et pas seulement le dimanche, il a raflé la mise sur tout le week-end, parce que l'accident de Pérez pendant les qualifs, peut-être que Vettel aurait quand même fait la pole, mais ça l'a quand même très largement aidé à la faire, cette pole.
Parce qu'Hamilton n'a pas pu rouler, par exemple.
Parce qu'Hamilton a pris la décision de rouler trop tard.
Ben oui, c'est plutôt comme ça, oui. Alors, mon cher François, est-ce que, selon vos yeux, pour vous, c'est un peu un cadeau, quand même, pour Vettel, parce que sur les 7 derniers tours qu'il restait avant l'interruption de la course, accordez-moi, François, que Fernando Alonso, Jenson Button et Monsieur Vettel, qui étaient réunis en 4, 5 dixièmes tous les trois, Button, Alonso étaient là, prêts à dégainer.
Clairement, oui, bien sûr. La Ferrari, pour une fois, était performante, aux mains d'Alonso surtout. Ce qui est assez amusant de constater, d'ailleurs, c'est que on a vu les stratégies. Évidemment, aujourd'hui, en F1, la stratégie est un élément hyper important. Et on a vu à l'arrivée du Grand Prix de Monaco trois stratégies différentes, à savoir que Vettel n'a fait qu'un seul arrêt pour changer de pneu, si on met à part le restart du 72e tour. Alonso a fait deux stops et Button trois. Et à l'arrivée, ils sont tous les trois dans un mouchoir.
Ouais.
Donc les trois stratégies étaient équivalentes en termes de performance. Il faut aussi noter un truc amusant, c'est que la stratégie de Vettel est totalement involontaire. À savoir que lorsque Sébastien Vettel est rappelé au stand au 16e tour pour changer de pneus, il était parti avec les pneus super tendres. Il y a un bug qui se produit dans la radio entre Christian Horner et le garage, et les mécaniciens n'entendent pas l'ordre de Christian Horner qui dit « on remet des super tendres ». Et dans ce cas-là, que font les mécanos ? Ils sortent les pneus tendres, donc les pneus prime, et donc Vettel repart avec des pneus tendres totalement involontairement, et donc à ce moment-là, quand tout le monde se rend compte de la bévue, on décide d'aller le plus loin possible avec les pneus tendres. Voilà. Et finalement, ça a tenu jusqu'au 72e tour. C'est assez étonnant.
Ouais, assez étonnant.
Bruno, je pense que celui qui peut le plus regretter cette configuration, celui à qui ça a le plus nuit, c'est quand même Jenson Button, parce que Alonso pouvait éventuellement passer effectivement Sébastien Vettel, mais ses pneus n'étaient pas tellement en meilleur état que ceux de Vettel, alors que Button,
il était un peu mieux,
mais pas autant que Button quand même.
Oui, certes, mais à la limite, il ne restait à ce moment-là, quand intervient l'accident au 72e tour, il reste 6 tours à couvrir.
Ouais.
Et même si Vettel était vraiment à la corde avec ses pneus, il était plus en danger, lui, qu'Alonso ne pouvait l'être par rapport à Button.
En tout cas, messieurs, Vettel s'impose avec une seconde d'avance sur Alonso et 2,3 sur Button. Voilà, ça c'est pour le podium. Weber termine 4e, Kobayashi 5e, Hamilton 6e, Sutil 7e, Heidfeld, Barrichello, Buemi. Voilà pour les hommes dans les points. Gilles Vettel, alors stratégie, comment dire, non pas audacieuse, mais chanceuse finalement, suite à cette petite erreur dans les stands. À côté de ça, grosse baston en piste et Alonso, il y aurait été.
Bah, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ce qu'il faut aussi remarquer, j'attache beaucoup d'importance à ça. Là, c'est pas du tout de l'information, c'est pas de la croyance non plus, mais il faut avoir.
Vous me faites peur.
Non, mais il faut avoir et avec l'expérience qu'on a tous, on le sait bien, il faut avoir ce petit coup de pouce de la réussite. Quand on est un grand champion, et souvent, ce sont les grands champions qui ont, les éléments qui tournent en leur faveur. C'est clair, c'est que vrai. 6 tours de plus, on n'aurait pas donné cher de la peau de Vettel, en tout cas pas sur la première marche du podium. Mais n'empêche que voilà, il y a un coup de Trafalgar derrière. Alors il faut voir si Flavio était pas dans les parages ce jour-là.
Oh non.
Si, j'allais vu Flavio.
Bah oui, mais.
Ouais, il était là, mais il avait pas de télécommande quand même.
Bah, on n'en sait rien. En tout cas, c'est une Toro Rosso qui décolle sous le nez de. De Petrov. Là, je fais pas du tout d'accusation, mais voilà, mais juste voilà.
C'est passé les choses.
Voilà, ça arrive comme ça. Je pense qu'Alonso avait une vraie chance.
On va en revenir à dire que Glock s'est écarté volontairement en 2008 pour laisser passer à Hamilton, si on va par là.
Non, mais c'est bon, c'était pas du tout le propos. Effectivement, Alonso avait sans doute une bonne chance. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le circuit où l'importance du pilote par rapport à celle de la voiture est la plus grande. On peut faire un exploit avec une voiture qui est pas au point à Monaco si on est un excellentissime pilote. C'est le cas d'Alonso. Ça ne l'a pas fait parce que Vettel est béni des dieux en ce moment.
Vous l'avez dit, Vettel béni des dieux, un cadeau alors qu'il ne tombe pas du ciel parce qu'il a quand même fait sa course, le gaillard.
Eh oui, il est très fort malgré tout.
Donc il était là. On vient d'en parler, Alonso a fait un grand prix comme Alonso sait les faire, c'est-à-dire c'était parfaitement résumé. Le talent qui pallie les petites faiblesses de la voiture, et puis Alonso reste.
Il a fait un super départ aussi.
Ouais, Alonso, un gros départ. C'est
une super course.
Il reste un artiste, quand et le pilotage s'en mêle, il est là.
On le voit descendre de la voiture. Il a le sourire.
Ouais, il est
deuxième et il a le sourire.
Content.
J'aimerais bien voir dans les archives combien de fois il a souri autant en finissant deuxième. Je crois qu'il a, il avait le sentiment d'avoir fait la course parfaite pour lui.
Ouais.
Et derrière, il y a plus fort,
Button, qui est un fin stratège, un homme qui fait marcher aussi bien son cerveau que ses bras et ses jambes, a pris cette troisième place.
Ce n'est pas le cas de tout le monde chez McLaren.
voilà, et on allait y venir justement parce que si Button s'est montré sage et discret, messieurs, il y en a un. Et je pense à Lewis Hamilton qui a fait le show. Mais excusez-moi, c'était chaud bouillant aussi. Bruno, vous n'avez pas forcément aimé le comportement ou peut-être les déclarations d'après coup des Lewis Hamilton qui, alors, on va le dire, a été dans le viseur des commissaires au final. Hein, ça.
Les deux, parce que quand même, on a découvert qu'il y avait des commerces ouverts à Monaco. Il y avait deux boucheries, la boucherie Hamilton, la boucherie Maldonado qui étaient ouvertes. Et puis
vrai, Maldonado, en fin de course, a ouvert le magasin, oui.
Et puis bon, les conneries qu'il a sorties après. Bon, s'en prendre à Massa. Effectivement, ça c'est le jeu, s'énerver après un autre pilote, c'est pas grave. Mais dire que les commissaires l'ont sanctionné parce qu'il était noir, faut arrêter, quoi. Je veux dire, on peut pardonner certaines conneries dites à chaud après course, mais il y a un moment, faut s'arrêter. Il a été sanctionné parce qu'il avait fait une connerie, c'est tout.
François.
Ouais, alors si je peux me permettre, pour l'histoire. L'histoire de la réplique au commissaire, je sais pas pourquoi ils m'ont sanctionné, peut-être parce que je suis noir. Lorsqu'il dit ça, c'est au micro de la BBC, et il dit ça, a priori, sur le ton de la plaisanterie, en citant la deuxième partie de la phrase, c'est ce que dit Ali G. Ali G, si vous vous souvenez, c'est Sacha Baron Cohen, celui qui avait fait, comment ça s'appelle, ce film très, très drôle.
Oui.
Borat. Voilà, et Hamilton dit ça sur le ton de la plaisanterie, mais après ça dégénère complet, mais ça c'est pas pour dédouaner Hamilton, parce que à mon sens il a fait la pire course de sa carrière.
On est d'accord, ouais.
Déjà, le coup de rentrer au stand par surprise en disant « Coucou, je suis là, changez-moi les pneus », c'était balèze déjà.
Non, mais il n'a pas fait une action propre de la course, excepté son dépassement sur Michael Schumacher en début de course.
Oui, qui était
bien.
Toutes
les autres tentatives de dépassement d'Hamilton ont été marquées du sceau de la sauvagerie, de la brutalité et de la bêtise, surtout. Quand il attaque Massa à l'épingle du loge,
ouais,
c'est n'importe
pas
quoi. Il a deux roues sur le trottoir, ouais. il va l'embrocher et il va dire ensuite que Massa aurait dû s'écarter. Alors franchement, non. Non, niette. Pas possible. Pareil pour Maldonado un peu plus tard.
Ouais. Gilles, vous vouliez intervenir.
Oui, je crois qu'Hamilton, on revient pas sur les déclarations parce qu'il y a effectivement l'humour anglophone qui se permet des choses qu'en France on ne peut pas trop se permettre aussi. Donc voilà, fermons la parenthèse là-dessus, même si ça fait un peu bizarre. Ok. Maintenant, Hamilton dans le pilotage, c'est un artiste. Il sait faire des choses qui régulièrement et franchement, heureusement qu'il est là depuis le début de la saison parce que c'est quand même lui qui a donné de l'intérêt à certaines courses depuis le début de l'année.
Il attaque.
Voilà, il sait créer des situations de dépassement imprévues, inimaginables, et dans ce sens-là, il est artiste. Et
ah puis, ouais, bah, là, il a tenté deux trois compressions à la César. Ouais.
De temps en temps, un artiste met un mauvais coup de marteau avec son burin sur un truc et ça lui ruine son œuvre.
Bah quand là, on est en Formule 1, c'est un peu. Et j'aime pas l'art contemporain.
Voilà, c'est ça. Non, mais dans l'idée, c'est ça. Il y a pas de raison mathématique pour expliquer. Voilà, la voiture était pas forcément mieux, forcément moins bien que celle des autres ce jour-là. Il n'était pas l'artiste qu'on connaît parfois.
Ce qui retire rien globalement entre les conneries et cette course, ce qui retire rien.
Attendez, on comprend pas les garçons là. Reprenons. Alors dans l'ordre, vas-y François,
vas-y.
Oui, alors non. Ce que je disais, c'est que ça part d'une frustration d'Hamilton issue des qualifications. Il savait qu'il avait une voiture qui pouvait lui permettre de jouer la pole position et donc la victoire forcément. Les qualifications déjà, ça se déroule, c'est une cata parce que voilà, l'équipe lui dit de partir tardivement et puis arrive le crash de Pérez qui ruine toute la stratégie. Donc il part normalement il aurait dû partir septième, il part neuf parce qu'en plus on lui colle une pénalité pour avoir je sais plus quoi amélioré sous drapeau jaune. Enfin bref, donc ça commence mal et après au fur et à mesure que la course se déroule. Bah plus ça va, pire c'est pour lui, parce que il n'arrive pas à remonter, il se frustre en restant coincé derrière des pilotes moins rapides que lui pendant au moins le premier tiers de course, et après il pète les plombs. C'est tout simple, l'explication du comportement d'Hamilton. Ça enlève rien à son talent de pilote, mais pardon pour l'expression, mais c'est un petit con dans son comportement par la suite.
Ouais, c'est clair, bueno.
Bah c'est ce que j'allais dire.
Surtout la fin.
Non, les deux.
Petit con. Non, mais surtout le petit con.
Non, mais ma phrase tout à l'heure commençait par ce qui n'enlève rien à son talent de pilote. C'est quand même un pilote exceptionnel, mais bon, là, il a enchaîné les conneries.
Ouais, c'est un jour.
Ah, et puis il était nerveux surtout. Il avait sa fiancée dans les box à Monaco. Sait que c'est chaud à Monaco. Il était pressé de revenir.
Oui, mais à ce moment-là, ils avaient tous leur fiancée dans les box à Monaco.
Ouais, mais bon, celle de Hamilton, elle pèse un peu plus lourd que les autres quand même.
Comment ça, elle pèse plus lourd? Mais
bon,
elle est toute mince.
Oui, non, mais bon, tu as compris.
Oui, Nicole. En tout cas, Nicole, elle n'a pas aidé suffisamment Monsieur Hamilton, qui ne termine que sixième. Finalement, c'est heureux qu'il n'ait pas repris derrière encore 15 ou 20 secondes de pénalité, parce qu'on pouvait s'y attendre, vu qu'il était quand même convoqué, qu'il a été dans l'œil du cyclone, finalement, quasiment tout le long du week-end.
Un truc que je n'ai pas compris et sur lequel j'ai un sérieux doute, ils avaient droit de lui refaire la bagnole à neuf avant le restart?
C'est une possibilité, oui. C'est un truc que je déplore un peu parce que, en fin de compte, les voitures étant immobilisées au drapeau rouge et devant repartir, reprendre un nouveau départ à 6 tours de l'arrivée, il me semblerait qu'il était plus, enfin, ça aurait été plus juste
équitable, ouais.
De laisser les voitures en configuration telle qu'elles étaient au moment où elles s'arrêtent.
Ah, lui, il allait pas loin.
On a vu que tout le monde changeait de pneus. C'est une possibilité. Ouais. C'était rien ne l'interdit, mais rien ne le permet non plus dans le règlement. Le point n'est pas explicité dans le règlement. Donc tout le monde en a profité. Et par ailleurs, il est possible, pour des raisons de sécurité, de réparer des éléments qui seraient à même d'amener un danger sur la voiture. Donc l'aileron arrière d'Hamilton, qui était un peu fracassé suite au choc encaissé par sa voiture, c'est Alguersuari qui est venu percuter à l'arrière.
Absolument.
Donc il a été autorisé à McLaren d'intervenir sur l'aileron d'Hamilton. Ils ont à grands coups de marteau,
ils ont fait ça avec délicatesse,
ils ont des pièces et tout.
Ils étaient aussi nerveux qu'Hamilton, les mécanos, parce qu'ils ont fait, usage de beaucoup de délicatesse. Vas-y que je t'arrache de toutes mes forces, je te donne un bon coup de savate dans l'aileron, ça va.
Et même le commissaire de la FIA qui est venu pour dire mais vous faites quoi là?
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bonne affaire au classement, finalement, elle est quand même faite par Vettel, bien sûr, puisqu'il est plus que leader avec 143 points devant Lewis Hamilton, 85 points, Mark Webber, 79 points, Button, 76, Alonso, 69. Voilà les hommes qui, depuis le début de la saison, sont devant et qui vont y rester, de toute façon. Bien évidemment, Vettel est loin devant. Oui, mon cher Bruno.
Je voulais vous tirer à François et à vous, Christian, un grand coup de chapeau, parce que c'est vrai que quand même Nick Heidfeld a fait des qualifs et une course parfaite.
Alors là, Nick Heidfeld,
Eric
Boullier vient de dire qu'il fallait quand même qu'il hausse un peu son niveau de jeu.
Ah bah oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. En qualif, c'est certain. En course, non, parce que en course, et Boullier le reconnaît aussi, le rythme de course d'Heidfeld, il est très bon. On l'a bien vu en Espagne où il est en partant dernier, il remonte à la... Non, c'est pas en Espagne, c'est en Turquie. Il remonte à la 8e place et ça pouvait être 6 avec très peu d'écart. Là, en course, il part 16e à Monaco. Il finit encore 8e. Honnêtement, son rythme de course était bon. Le problème, c'est les qualifs. Les deux pilotes, d'ailleurs, n'ont pas réussi, aussi bien Petrov que lui, à entrer dans la dernière partie des qualifications en Q3. Donc il y avait un...
Ouais, sauf que vous m'avez jamais dit que Petrov est un génie. Encore.
Non, mais je ne pense pas que ni Petrov ni Heidfeld, mon cher Bruno, ne soient des génies. Simplement, de toute façon, il n'y a pas grand chose de mieux à faire quand votre pilote numéro 1 est dans l'incapacité de prendre le volant que vous avez à peu près conçu pour lui. Et c'est clair qu'on s'en souvient, Kubica l'an passé était deuxième sur la grille à l'arrivée sur le podium. C'était cette année un peu décevant, effectivement, de voir Heidfeld très loin en qualif. Mais ça, on le sait, c'est pas son exercice préféré. Un sprinter comme Kubica, évidemment, mon cher Gilles, aurait... on aurait beaucoup attendu de ce garçon, c'est clair.
Oui, on aurait beaucoup attendu, mais maintenant, on va pas faire de la Formule 1 fiction. Moi, maintenant, j'aimerais bien voir, vu que Nick Heidfeld, de toute façon, n'emmènera pas cette équipe vers les plus hauts sommets, autant rappeler un garçon qu'on avait appelé au secours quand la maison brûlait et essayer de lui redonner une deuxième chance. Je pense à Romain Grosjean.
Voilà. Ouais. Mais
oui, mais non.
Pas.
Alors, ce serait encore une fois pas un cadeau à lui faire, ça. Renault a déjà fait la bêtise de lancer Grosjean en Formule 1 alors qu'il n'était pas préparé et dans une voiture qui était la pire du plateau à l'époque. Il serait stupide et Boullier ne l'est pas. De le relancer alors que ce n'est pas encore le moment pour lui. Le moment pour lui, ce sera l'année prochaine.
Ouais, sauf que quand on voit ce que fait Petrov, faut quand même se rappeler que Grosjean, il était devant Petrov en GP2.
Oui, bien sûr. Ah oui. Mais Petrov aujourd'hui, c'est un an et demi d'expérience en Formule 1, ce que n'a pas encore notre jeune Grosjean. Qui est un bon pilote, hein. On va pas dénigrer Grosjean du tout. Simplement, c'est une question d'expérience, de connaissance des circuits et plein de choses. Hein.
De toute façon, Romain, il dira non parce qu'il commente le DTM avec moi, il préfère ça.
Bon, ok.
Et juste un détail aussi,
François.
Quand même.
Ouais.
Faut quand même signaler que Petrov, quand il se fait prendre dans le carton du 72e tour, il était quand même en mesure, il était à la portée de la 4e place, il était même plus que probablement 4e à l'arrivée si ça se passe bien.
Non mais franchement il fait une belle saison Petrov, compte tenu des moyens, compte tenu de l'ambiance aussi dans les premières semaines de la saison, il fait des progrès qui sont quand même très respectables. Ça devient très sérieux par contre chez Toro Rosso pour Albersard, il va falloir faire quelque chose.
On en reparlera prochainement, évidemment il se passe plein de choses en F1, le prochain rendez-vous c'est dans deux semaines, un petit peu moins de deux semaines pardon, dans une grosse semaine ce sera le Canada avec qualification et course samedi en début de soirée, dimanche, en début de soirée au Canada où on inaugurera un nouvel élément du règlement avec deux zones autorisées pour le DRS. Et puis on verra si Pérez est là, si Petrov est en pleine forme, parce qu'il y a eu un peu de casse à Monaco. Voilà, c'est à nouveau un rendez-vous atypique, étonnant, c'est le Canada, c'est Montréal, et on y reviendra bien évidemment dans nos prochaines émissions. Pour l'instant, on va refermer les portes du garage.
RTL L'Équipe, Carrément Moteur, Christian Pasquet.
Nous sommes de retour pour évoquer évidemment toute l'actualité des sports mécaniques. Nous avons longuement abordé les 24 heures du Mans, je vous le rappelle, c'est dans une semaine, c'est sur la piste mythique des 24 heures du Mans, 13 km de piste, rien que ça, déjà ça nous fait rêver. Nous avons évoqué la victoire de Sébastien Vettel, la cinquième en 6 courses, c'était à Monaco. Dans une semaine, ce sera Montréal, le Grand Prix du Canada. Et il s'est passé d'autres choses le week-end passé, nous y revenons tout de suite en ouvrant le livre ou le dossier, comme vous voulez, rallye.
RTL L'Équipe, le rallye.
Bon alors le rallye c'est un sport, vous allez d'un point A à un point B, le plus vite possible et à la fin c'est l'homme qui gagne. C'est ça un peu, non?
Ah ben oui, je revendique cette formule.
Bon messieurs, Sébastien Loeb vainqueur en Argentine pour la sixième fois et consécutivement si je ne m'abuse. Il a devancé Hirvonen et Ogier, alors avec un rallye complètement dingue sur les pistes d'Argentine. Il y avait même un petit bout de bitume pour perturber un peu tout le monde, en tout cas pour bien flinguer les pneus. Voilà, une victoire de Sébastien Loeb assez inattendue, car le champion du monde en titre, dès le vendredi midi, a pris une minute de pénalité pour un pointage qu'il ne fallait pas faire à cette heure-là, et voilà, ils étaient en avance, et ils ont pris une minute, et résultat des courses, il gagne au rallye pour 2 secondes, sachant que monsieur Ogier, lui, eh bien, on a perdu la tête le dernier jour, et tellement perdu la tête qu'il s'est mis cul par-dessus tête. Auparavant, Latvala avait, lui, cassé les suspensions de sa voiture. Messieurs, Sébastien Loeb a été, alors, heureux parce que, il fallait, qui aurait pu imaginer que Latvala et Ogier, le dernier jour, partent à la faute, mais surtout, encore une fois, c'est ma nette impression cette saison, vous allez me dire ce que vous en pensez. Sébastien Loeb, qu'il soit en position de gagner ou en position, je dirais, de marquer les esprits psychologiquement, cette année, ça fait au moins 2 rallyes où c'est, il fait fi de la stratégie, vous voyez, de s'arrêter, de faire un concours de parking. Lui, c'est à fond et ça paye.
Mais c'est-à-dire que pour gagner un rallye, c'est pas très compliqué, faut être rapide et ne pas faire de conneries. Et pour l'instant, Sébastien Loeb reste le seul à réunir les 2 configurations.
C'est vrai. François, c'était
Il y en a qui sont rapides, mais ils font des conneries. Ouais. Et Hirvonen ne fait pas de conneries, mais de toute façon, à la vitesse où il les ferait, ça changerait pas grand-chose.
Oui, exactement, vous avez raison Bruno. Et François, alors là aussi c'est un peu un cadeau, on va dire, du ciel hein, pour l'homme. N'empêche que, il n'a jamais cessé d'attaquer parce qu'il voyait également qu'il pouvait franchement revenir sur Hirvonen à la régulière. Ça veut dire qu'il lui a quand même collé finalement 1 minute sur 3 jours de rallye.
Bien sûr, ouais, puis c'est pas une nouveauté. Hein.
Ben non,
c'est pas la première fois qu'il réalise ce genre de choses, Sébastien Loeb. Donc, et de toute façon, on peut être certain avec le septuple champion du monde que jamais il ne lâchera le morceau. Tout le monde doit en être averti. Enfin, ça s'est fait 2 fois cette année au moins qu'il remet les pendules à l'heure dans ce style-là. Il faut que tout le monde sache que il sera encore champion du monde cette année parce que là, encore une fois, c'est la démonstration que l'intelligence de course. Aujourd'hui, de Sébastien Loeb prend le pas sur celle de ses adversaires, même si Ogier est extrêmement performant en termes de vitesse d'apprentissage déjà. Il faut savoir que Ogier, c'était son premier rallye d'Argentine, il connaissait pas, et c'est aussi là-dessus que Olivier Kennel explique la faute qui l'emmène en tonneau dans la dernière journée. Une erreur de note, une corde coupée de manière trop optimiste, et voilà. Tout ça amène à dire que, avec le programme qui reste, à savoir 7 rallyes, dont 3 sur asphalte, les choses se présentent au mieux pour Sébastien Loeb et pour un 8e titre mondial.
Ouais. Et alors, Gilles, de manière assez étonnante, on a quand même le sentiment, depuis le début de la saison, et c'est justifié par les résultats, que les Citroën DS3 sont, alors, pas forcément plus performante, mais côté fiabilité, il y a moins de pépins, je dirais, que pour l'Advala. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon...
Les pépins de l'Advala, ils viennent pas tous de la voiture.
Non.
Mais c'est pas des pépins, c'est des noyaux. Hein.
Justement parce que l'Advala est à l'attaque et qu'il ne ménage pas la mécanique. Quand on regarde le classement, il y en a un qui s'en tire pas mal. Il a que 13 points de retard.
Hirvonen.
Alors qu'il a qu'une victoire. Mmh. C'est Hirvonen qui joue la stratégie, je dirais, sur le long terme.
Oui, mais comme il l'a toujours fait, mis à part l'an passé où il était un petit peu ailleurs pour des raisons personnelles, c'est sa seule chance à Hirvonen. Il sait que de toute façon, à la régulière, il ne peut pas suivre Loeb. C'est même pas une question de voiture. Vous les mettez à voiture égale, Hirvonen sait qu'il ira moins vite que Sébastien Loeb. Donc lui, sa seule chance, c'est en fait la rivalité entre les deux Seb de chez Citroën, qui en est un qui marche un petit peu sur l'autre. Alors pour l'instant, c'est que Ogier qui boit la tasse systématiquement, enfin pas systématiquement, mais en tout cas plus régulièrement que Loeb. Et on ne sait jamais si finalement Loeb finit par être poussé à commettre une erreur. Le premier bénéficiaire aujourd'hui, ça serait plus Sébastien Ogier, ça serait Mikko Hirvonen. Donc lui, il est parfaitement dans son rôle. C'est parfaitement bien joué de sa part.
Sauf que la rivalité entre les deux Seb vient d'en prendre un sérieux coup.
Oui, effectivement, mais il a pas la main là-dessus, Hirvonen. Lui, il joue sa partition et la seule qu'il puisse jouer pour l'instant, c'est d'espérer qu'à un moment, le balancier revienne dans le sens de Sébastien Ogier. Mais si le balancier revient dans le sens de Sébastien Ogier, c'est pas Ogier qui en profitera, c'est Hirvonen. Donc là, peut-être qu'Olivier Kennel, maintenant, va commencer à changer un petit peu son fusil d'épaule.
Alors, François, qu'est-ce que vous dites, François? Que se passe-t-il?
Tout simplement, il y aura pas de changement de fusil d'épaule dans la mesure où, de toute façon, Olivier Kennel n'avait pas de stratégie définie au départ concernant Loeb ou Ogier, même les qualités d'Ogier et sa jeunesse font que Ogier représente l'avenir pour Citroën et donc il le protège d'une certaine façon. En même temps, Loeb fait son travail de champion du monde. Et il n'y a pas de stratégie définie en faveur de l'un ou de l'autre.
François,
au sein de Citroën, hein.
D'accord, sauf que là, au départ du prochain rallye, le deuxième du championnat, c'est plus Sébastien Ogier, c'est Mikko Hirvonen. Il y a 13 points d'écart entre Loeb et Hirvonen, oui. Il y en a 30 entre Loeb et Ogier. Ouais. Donc
On se souvient aussi qu'après le rallye du Mexique où Sébastien Ogier avait fait une grosse bêtise, il se voyait déjà larguissime et très loin. Il avait 26 points de retard au championnat et puis en deux courses, il était revenu au contact de Sébastien Loeb et d'Hirvonen. Donc voilà, 30 points, ce n'est pas rédhibitoire, rappelons-le, avec une victoire à 25 points.
Non. Oui, c'est vrai.
C'est vrai que ça n'est pas rédhibitoire. Ce qui est malgré tout, ce qui doit être marquant pour l'espoir de Citroën et l'espoir du rallye français, et je parle d'Ogier bien évidemment, ce qui est en même temps un peu dur, c'est de voir quand même que le boss reste le boss et que voilà, lui non plus ne lâche rien. Et pour l'instant, celui qui franchit les lignes d'arrivée, a priori, c'est plutôt Loeb. Ça, il va quand même falloir qu'il en tienne compte, Ogier. C'est que c'est bien d'être optimiste, c'est bien d'être ambitieux. C'est bien aussi de marquer. Alors là, il a marqué des points en terminant troisième, mais au prix d'un effort terrible.
Déjà d'un beaucoup de chance.
Et d'un beaucoup de chance de pouvoir repartir après un tonneau, parce que la voiture, mine de rien, il l'a quand même chiffonnée.
C'est pas fait pour rouler sur le toit.
Pardon ?
Il n'y avait plus de direction assistée sur sa voiture. Ça l'a quand même pas mal handicapé pour les dernières spéciales, même si elle faisait que 3 km.
Ah bah oui, il perdait 10 secondes sur 3 km à chaque fois. C'est un peu terrible. Lorsqu'on regarde dans le détail, Loeb, donc vainqueur, il a tout de même réalisé 8 en scratch devant l'Advala 5, Ogier 3, Solberg 3. Un petit mot sur Solberg, messieurs, qui à chaque fois, nous plaît beaucoup parce que c'est un garçon sympa qui attaque et tout. Mais en plus, il est quand même pas très vénard. À chaque fois, il lui arrive des pépins.
Bien, ça se termine toujours mal. C'était un petit peu pareil du temps de Subaru, cela dit. Hein.
C'est les histoires d'amour comme ça qui finissent mal en général.
Ouais. Solberg a quand même marqué les 3 points de la Super Power Stage.
Ouais, ça c'est pas mal. C'est vrai.
La Mickey spéciale, la spéciale Mickey.
Oui, oui, non, mais c'est un détail aussi qui est important dans le calcul des points, parce que oui. Dans la plupart des rallyes aujourd'hui, ça se termine avec 3 points supplémentaires pour le vainqueur de cette fameuse Power Stage.
Oui.
Donc, en admettant que Ogier gagne la Grèce éventuellement et qu'il ajoute les 3 points de la Power Stage, ça fait 28 points d'un coup.
Ouais.
Hein. Ça permet de revenir.
Et puis, mine de rien, Peter Solberg, sur les 2 derniers rallyes, il a marqué plus de points que Ogier grâce à ses points de la Power Stage.
Voilà.
Ouais, ouais, c'est
voilà.
Vrai. Donc, il est clair que pour Ogier, rien de perdu parce que la compète reste ouverte, mais il va quand même falloir.
Il faudrait pas qu'il devienne un Latvala non plus.
Mais
non,
voilà, c'est ça.
Mais je pense pas que ce soit ça qui guette Sébastien Ogier. Je sais pas si François a le même sentiment que moi, mais chronométriquement parlant, l'écart entre Loeb et Ogier est sans doute assez faible. C'est au niveau du mental encore que ouais. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre.
Ouais, je suis pas sûr parce que Ogier quand même un mental très fort, il doute de rien. Hein,
ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Sauf qu'il se met sur le toit.
Oui, il se met sur le toit, ça arrive encore de faire quelques bêtises.
Voilà, mais c'est dans ce sens-là où Loeb, c'est quand même très très rare qu'à la bagarre, il se mette sur le toit. Et je pense qu'il y a encore, c'est là-dessus qu'il y a encore une marge de, il y a encore une marge de manœuvre.
Oui, et puis il y a la marge
importante.
De l'expérience.
Oui, voilà.
Hein, et Sébastien Loeb, c'est quand même 144 départs en rallye.
Oui, c'est sûr.
Ogier, pour l'instant, n'en est qu'à 39.
Je cherchais une citation. La citation de Rudyard Kipling. Si tu sais conserver ton courage et ta tête quand les autres, la perdent,
oui,
c'est bon, ça. Gagner. Voilà,
c'est
je connais
bon,
pas la suite par cœur, mais
il y a aussi Charles de Gaulle qui a dit je reprendrai bien les nouilles Yvonne.
Non, ça, mais
excellent.
Bon, et bien on l'a perdu, ça y est, on l'a perdu, notre ami Bruno. Et
pour en revenir à cette histoire de mental, moi je veux bien. On nous dit que Ogier est jeune, que Ogier est encore expérimenté. J'ai pas l'impression que Loeb il y a 10 ans faisait les mêmes conneries.
Il en a fait quand même.
Mais de toute façon, n'oublions jamais que malgré tout, et c'est Daniel Elena qui souligne assez régulièrement, et ils s'en mettent une, enfin l'expression dire s'en mettre une, c'est-à-dire qu'ils se font une bêtise
piste.
Par an. Grosso modo, ils en font une par an. Depuis 10 ans, c'est toujours été le même tarif. Une fois sur une course dans l'année, ils se ratent en général. Alors le tout est de savoir laquelle, parce que pour l'instant, il n'en a pas fait.
Oui.
Bon.
Il y a eu des saisons où il en a pas fait, et il y a eu des saisons où il en a fait 2 voire 3.
Oui, ouais. Oui, oui, mais enfin, c'est la moyenne, c'est une erreur par an.
Non, mais c'est pour aller dans ton sens, c'est pour dire qu'il y en aura pas forcément cette année. Hein, et...
C'est possible.
Ouais. Le rallye d'Argentine s'est donc terminé avec la victoire de Sébastien Loeb, qui désormais caracole au championnat du monde avec 126 points devant Mikko Hirvonen 113, Sébastien Ogier 96, Jari Matti Latvala 74, Solberg 61. Après, c'est plus loin, Hötzberg est 6 avec 48 points, Matthew Wilson, Villagra, Kimi Raikkonen 9e. Prochain rendez-vous qui ne sera pas de tourpeau, c'est en Grèce, il va y faire chaud. Les voitures y souffrent, les pilotes aussi. Et comme d'habitude, messieurs, Sébastien Loeb ouvrira la piste.
Et oui, c'est encore lui qui va balayer comme toujours.
Ouais, puis alors la Grèce, bonjour, hein, c'est plein de cailloux, c'est super cassant, c'est... très, 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 très difficile comme rallye à ouvrir en particulier.
On se souvient de l'énorme cabriole de Loeb et Elena il y a 2 ans.
Oui.
En Grèce, où ils avaient pulvérisé la C4.
Ah, là aussi, il n'y avait plus de direction assistée.
Là, il y avait même plus d'habitude. Il n'y avait pas de clignotant. Je me demande même s'il restait un morceau de la voiture. C'était ahurissant. En tout cas, le prochain rendez-vous, c'est en Grèce. Et ce sera aux alentours du 16 au 19. Absolument, mon cher François. À propos de rallye, pour conclure ce chapitre ce week-end, Gilles, je me retourne vers vous. Il y a de l'IRC.
Da.
Ah, da, parce que c'est en Ukraine.
Oui.
C'est la 4e manche du championnat. Il y a eu Monte Carlo, les Canaries, le Tour de Corse.
Et maintenant Tchernobyl.
Et ce matin, Neuville était très à l'aise déjà.
Eh oui, mais il est sorti.
Ah, c'est pas vrai.
Non, il a eu une crevaison.
Ah, il a perdu
une
crevaison. Bien,
oui.
Ben vous me surprenez. Ce matin, avant de partir, il était en tête devant Kopecky et Wax. Puis Bouffier est revenu parce que
il y a eu une crevaison pour Neuville.
Pépin, ouais, il y a eu des choses pour Neuville. Hanninen, lui, est 11e. Il a pris 10 secondes de pénalité pour un départ anticipé.
Mais il est remonté, Hanninen.
Mais ouais, donc on a encore une bonne journée de compète. Et c'est donc aux Canaries. Ça s'appelle le Yalta Rally. C'est bien cela,
oui, mon cher. Non, c'est pas aux Canaries, c'est en Ukraine.
En Ukraine.
Oui, à Yalta. C'est là où se sont retrouvés Staline. Bien sûr, c'était aux Canaries. Donc
voilà. C'était donc aux Canaries, ou là où il y a Yalta. Et voilà.
La géographie, Christian, la géographie.
Ouais. Bah, pourtant, c'est noté sur.
Et il avait séché le cours ce jour-là.
J'ai bien noté les garçons. Hein. Je vous promets que j'avais révisé, que j'avais préparé, que j'ai pris des notes, mais j'ai super mal écrit. En tout cas, on vous donnera les résultats là aussi de cette compétition qui, je le rappelle, s'en était que n'en est qu'à sa 4e manche de l'intercontinental. Rally Challenge, Gilles, vous nous donnez...
J'essaye, mais ça... Donc pas. Après 5 spéciales, c'est Brian Bouffier qui est en tête. Voilà, vainqueur du Monte Carlo. Donc,
Et Hanninen juste derrière.
Hanninen, oui.
À une seconde, ouais.
Oui.
Hanninen à une seconde.
Ouais, c'est chaud, hein.
Sachant qu'il a pris une pénalité de 10 secondes. Ouais. Donc ça va être chaud. Ensuite, c'est Yann Kopecky qui est à 19 secondes. Hein. Ensuite, Guy Wilks qui est à 25, Tony Gardemeister, Andreas Mikkelsen, Per Gunnar Andersen, et puis Neuville, il est retombé au 9e rang.
Dommage pour le jeune pilote belge.
Il y a un truc qui se produit là-bas, ce que j'ai lu, puisque j'y suis pas, mais il y a visiblement des crevaisons à répétition pour beaucoup de pilotes.
Hein.
Il y a, la piste est extrêmement, les routes sont extrêmement sales.
Oui, moi j'y suis allé il y a quelques temps, à l'époque où l'organisateur voulait faire de son rallye, voulait faire intégrer son rallye au championnat d'Europe.
Ouais.
Donc il avait un petit peu invité les médias. Donc j'ai fait quelques spéciales. Et oui, c'est pas les routes, c'est pas la Catalogne, c'est pas la Corse. Hein.
D'accord.
C'est des routes en Ukraine, dans la portion vers Sébastopol, Yalta, tout ça.
Des routes en bois.
Voilà, c'est encore un peu exotique, mais justement, c'est là qu'il faut être parfaitement propre. Et
Sébastopol, ça roule. Hein. En général, c'est Réau Mur qui est bouché.
Sébastopol, c'est en Ukraine.
Vous allez finir en grosse tête, vous. messieurs, on reparlera à rallye, bien évidemment, à l'occasion déjà pour donner les résultats de ce rallye d'Ukraine, je précise, à Yalta. Voilà. On va passer maintenant sur deux roues.
RTL l'équipe, la moto.
Alors, mon cher Gilles, je me tourne vers vous.
Oui.
Parce qu'il y a la moto, mais mon cher François, vous êtes là, et Bruno aussi.
Oui.
Grand Prix de Catalogne, on est sur le même circuit que la Formule 1, c'est à Montmeló, au nord de Barcelone. Alors, Lorenzo, Stoner, Dovizioso, Rossi, mon cher Gilles, en MotoGP, parce que, on va le dire, Pedrosa...
N'est pas là.
N'est pas là.
Ouais, je suis bien surpris parce que, une clavicule, je pensais que c'était simple. Visiblement.
Enfin, en même temps, vous me dites ça à moi. Moi, je pense qu'avec une clavicule, j'en ai pour 4 mois. Mais bon.
Vous n'êtes pas pilote de MotoGP.
C'est mieux comme ça.
Ouais. Voilà. Bon. Donc, effectivement, Pedro
Sapala. Vous l'attendiez vraiment, vous.
Ah oui. Très sincèrement, oui. Je n'avais pas envisagé qu'il puisse ne pas y être. Et d'ailleurs, ça a quand même surpris pas mal de monde. Je pense que l'expérience aussi des dernières saisons où les pilotes ont systématiquement voulu revenir trop vite a sans doute convaincu Pedrosa de prendre bien son temps et qu'il valait peut-être mieux faire l'impasse sur ce Grand Prix que de s'en remettre une et d'aggraver les choses.
Ouais,
on peut constater aussi l'absence de Pedrosa. Réduit la grille de départ du MotoGP à 16 motos. C'est quand même très peu, quoi.
Bah oui, c'est un peu le pot de chagrin,
comme
ça. Oui,
hein.
Ouais, alors normalement, c'est un problème qui sera résolu l'an prochain avec le passage aux 1000 cm cubes et avec la possibilité, je crois qu'il y a 13 pilotes et 13 candidatures qui ont été retenues. Donc il y aura normalement plus de machines sur la grille l'année prochaine. Et là, on va finir un peu comme on peut.
Alors en Catalogne, messieurs, Lorenzo s'y présentera en leader du championnat du monde, le champion du monde en titre à 78 points devant Casey Stoner 66, Pedrosa 61 et Dovizioso 50. Ce qui veut dire, Gilles, François, Bruno, que... Voilà, ça n'est finalement que le début du championnat du monde parce que les petits points d'avance de Lorenzo ne sont pas si si copieux que cela, j'allais dire. Et Casey Stoner montre quand même une certaine habileté hein, sur sa Honda.
De toute façon, on l'a vu, il était intouchable déjà au Mans, Casey Stoner. C'est régulièrement le plus rapide en performance pure avec Marco Simoncelli. Là, il y a eu les premiers essais libres ce matin, Casey Stoner, près d'une demi-seconde de plus que Marco Simoncelli, sauf que Simoncelli en course, il va falloir qu'il fasse très très attention parce que là,
j'allais y venir parce que il est dans l'œil du dans l'œil des commissaires et du cyclone.
Ils ont donné le nom au cyclone, ils l'ont surnommé Simoncelli. Donc il va falloir qu'il fasse un petit peu attention. En performance pure, c'est l'assemblage Stoner Honda qui est le plus performant. Et puis à côté de ça, eh ben il y a un Jorge Lorenzo qui, avec son talent, arrive à tirer son épingle du jeu avec les petits coups de chance qu'il a eu, l'accrochage de Rossi et de Stoner à Jerez. Et c'est lui qui se retrouve en tête du championnat. Alors que, clairement, la Yamaha n'est pas aussi performante que la Honda. Et il le dit très clairement. Il met même la pression sur Yamaha en disant il faut continuer de progresser parce que sinon, on pourra pas rester comme ça en tête du championnat jusqu'au bout. Mais pour l'instant, Lorenzo joue parfait. Il a une partition parfaite, un petit peu comme celle de Alonso. Sauf que Alonso, ça a pas souri à Monaco et que Lorenzo, depuis le début de la saison, il y a eu l'équipe des petits coups de pouce qui ont fait qu'il est en tête du championnat. Mais là, Stoner à la régulière va être très très difficile à aller chercher.
Bah oui, ça semble évident quand on regarde encore une fois les essais de ce matin. Les deux Honda devant, déjà Stoner une demi seconde devant Simoncelli, et puis ensuite les deux Yamaha officiels. Lorenzo a plus de 7 dixièmes de la performance de Stoner, c'est quand même un gouffre.
Alors attention, les conditions étaient un petit peu particulières aussi ce matin. La piste n'était pas totalement sèche.
Oui, mais elle n'était pas totalement sèche pour tout le monde.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que normalement, 7 dixièmes, normalement, quand la piste est comme ça, mi-figue, mi-raisin, ça resserre un petit peu les performances parce que forcément, les quelques millièmes de pourcentage de performance qu'on peut tirer en plus d'une machine par rapport à une autre, là, ils sont effacés par les conditions d'adhérence. Donc 7 dixièmes, c'est quand même énorme. Dans ces conditions-là, c'est quand même énorme.
Messieurs, il y aura aussi, bien évidemment, le championnat Moto 2 que l'on suivra avec pas mal d'attention. On regardera ce que Mike Di Meglio, bien évidemment, arrive à faire. Et puis, il y aura aussi l'autre, Jules Cluzel, notre ami Jules. Et puis, on aura aussi un œil attentif sur la 125, puisque le jeune français Johan Zarco est troisième du championnat. Bon, un petit peu, évidemment, largué par Terol, qui écrabouille cette discipline.
Il a trouvé quelqu'un qui parlait au Mans, quand même, Nicolas Terol.
Ouais, c'est vrai.
Ah, c'était fabuleux, ça, cette victoire de Maverick Vinales, 16 ans. Qui lui a fait un coup d'intox, mais qui l'a embrouillé, mais c'était fabuleux. Enfin, moi, je l'ai vécu au micro, mais c'était énorme ce qu'il y a fait, ce coup de Trafalgar. Et Terol, il s'est fait mystifier. Bon, sauf que là, il a remis un peu tout le monde d'accord en collant une demi-seconde au plus proche de ses poursuivants lors de la première séance d'essais libres. Mais c'est ce qu'il avait fait aussi au Mans. Et puis pendant la course, mine de rien, il s'est fait avoir par le petit jeune.
Messieurs, Grand Prix de Catalogne, c'est ce week-end. Les courses 125 cm3, c'est dimanche à 11h. Moto 2, 12h15. Et le MotoGP, bien évidemment, 14h. À ne manquer sous aucun prétexte. On y reviendra là aussi, bien évidemment, parce que le championnat de moto est loin d'être joué. Alors.
Sur RTL L'Équipe, c'est carrément moteur jusqu'à 12h30.
Messieurs, ce week-end, il y a d'autres choses partout en Europe. Je voulais faire un petit tour d'horizon avec vous. Il y aura le championnat WTCC. Bruno, c'est à... Bruno, au lieu de faire la liste des courses, là. Bruno, restez avec moi. D'accord.
Oh, comment il l'a balancé, c'est pas beau.
Le Hungaroring, avec les Chevrolet, bien sûr. Eh oui. Et qui est leader? C'est Robert Huff, devant Yvan Muller. François-Gilles Bruno Huff, qui a une très belle avance. Hein, 120 points au classement devant Muller, 84. Chevrolet, 5 fois vainqueur des 6 courses depuis le début de la saison. Bon, ça ressemble à une énorme domination tout de même.
Bah, tout ça est d'une logique imperturbable, puisque Chevrolet est la seule équipe officielle engagée dans le championnat du monde WTCC. C'est voilà, ça se résume à ça. Les BMW n'ont rien d'officiel, sont des voitures engagées par des teams privés. Quant à Seat, bah pareil, c'est une team Sunred, mais ce n'est pas, même si elle si cette formation a un soutien plus ou moins officiel de Seat, ce n'est quand même pas une équipe officielle. Donc ouais. les trois Chevrolet Cruze se baladent, logique.
Ouais. Ouais. Pour ceux qui se trouveraient en Autriche, je sais pas si
c'est des gens qui vont
en Autriche ce week-end. non, mais parce que j'aime beaucoup le circuit, donc il faut le savoir, il y a le DTM à Spielberg.
Ouais. Hein, Bruno? Avec Bruno Spengler, voilà. En tête du championnat. Voilà.
Et Bruno Scagliotti au commentaire.
Bah non.
Ah non, pas, ah bah non. Pas ce week-end.
Non, non, non.
Bon, il veut pas.
Non, il est au Grand Bornand.
Juste qu'il ce week-end.
T'as rien compris.
Dommage.
Bossez pas beaucoup, vous, le week-end.
Ouais, c'est ça.
À Spielberg, il y aura aussi.
Il est au petit chinaillon, il est au grand chinaillon ce week-end.
sur un circuit qui a été, on va dire, rafraîchi par les bons soins de Monsieur Matthias Schitz, le circuit de Spielberg où l'on allait par le passé en Formule 1, où on n'ira certainement plus, mais en tout cas, le circuit revit un peu. Il a été franchement rafraîchi.
Avec voilà, du côté
c'est
de
pas qu'on n'y retourne pas.
Oui,
hein,
c'est ce que j'allais dire.
Oui,
c'est ce que j'allais dire. Cette phrase péremptoire, on va la garder.
ouais. Tout le monde en parle, mais ça a l'air compliqué quand même. Ça a l'air compliqué.
Oh.
Apparemment.
Oui, mais il a ce qu'il faut.
Il a ce qu'il faut. C'est possible.
Cela dit, lui, il a des sous et comme Bernie en a un peu aussi, ils vont bien s'arranger pour aller mettre la F1. En tout cas, voilà, ceux qui veulent s'intéresser au DTM, il y en a, la F3, il y a aussi un...
Avec Roberto Meri en F3 pour l'instant.
Il y a un championnat, il y a une manche du championnat NASCAR et puis il y aura aussi FIA GT1 à Silverstone.
Et puis on a parlé des 24 heures du Mans, on n'a pas parlé des 500 miles d'Indianapolis qui ont failli revenir à un Belge à 500 mètres près.
Ouais.
Voilà. Non, surtout à J.R. Hildebrand, rookie qui s'est crashé dans le dernier virage alors qu'il avait pratiquement course gagnée.
C'est incroyable, ouais.
Ça te fait marrer en plus.
Et à noter, Gilles nous parlait de la Belgique, la belle 7e place, c'est ça, de Bertrand Baguette.
Ouais, chaud. Ouais. Bien. Non, mais ce qui prouve qu'il est, en train de trouver sa place de l'autre côté des États-Unis, Bertrand Baguette. Faut pas, oublier son nom à celui-là.
Bon, ben écoutez, on va le retenir. Bruno, il s'appelle ce jeune pilote belge.
Bertrand Baguette.
Voilà, un dernier mot pour vous dire que.
Il est de l'autre côté des États-Unis, on sait pas lequel, mais de l'autre côté.
Ce week-end, sur deux roues, il y a le Grand Prix de France, championnat du monde de motocross à Saint-Jean-d'Angély, samedi et dimanche. Les meilleurs pilotes du monde entier s'affrontent sur le circuit de Charente-Maritime. Donc voilà, si vous êtes dans cette région, un petit tour sur le circuit de Saint-Jean-d'Angély.
C'est plus sympa que l'Autriche déjà.
Qui est l'une des manches. Ah, oh, vous avez tort. Spielberg en été, c'est magnifique. Ah oui, franchement.
On ira voir. La et tout.
Et en plus, vous le faites bien. Vous irez en éclaireur, mon cher Gilles.
Ah, il découvre si j'ai les chaussettes montantes. Hein.
Messieurs, merci mille fois. Merci François. Ouais. Merci mille fois François d'être venu jusqu'à nous.
À tous, bon week-end.
Bon week-end, mon cher Gilles. Bon week-end. Bruno, bon ski.
C'est possible, hein, il a neigé là-bas, donc c'est possible.
C'est vrai.
Merci à tous. Très bonne semaine. À la semaine prochaine pour reparler, bien évidemment, moteur, carrément moteur. Il est 12h30.
Pour podcaster Carrément Moteur, rendez-vous sur rtl.fr.